Bonsoir, messieurs, dames. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la Maison des écrivains pour la première de ces soirées de réflexion et de remue-ménage que l'Union des écrivaines et écrivains québécois et le Centre d'essai des auteurs dramatiques ont décidé de vous présenter conjointement. Si nous avons choisi d'unir nos forces pour vous proposer cette série intitulée « Ce soir, on pense », c'est que nos équipes respectives, à mon homologue Lise Vaillancourt et moi-même, sentions que nous avions tout intérêt à débattre ensemble de ces problématiques qui nous affectent au même titre que tous nos collègues des milieux des lettres, que nous soyons professeurs ou chercheurs universitaires, essayistes, dramaturges, poètes, romanciers, novellistes ou toute combinaison de l'un de ces titres. Que nous soyons préoccupés par le sort de la pensée dans un monde qui semble volontiers prêt à la réduire systématiquement à sa plus simple expression. Nous avons donc convié à cette soirée de débat et de réflexion convaincus que l'exercice aurait s'avéré salutaire pour tous ceux et celles qui acceptaient de s'y prêter. Parmi ceux-ci, donc, trois écrivains et écrivaines, membres des associations en question, et même des deux associations, des artistes de la pensée, de la parole, associés de près ou de loin au milieu du théâtre. C'est un hasard si peu hasardeux qui en aura décidé ainsi. Et avant de leur laisser la parole, avant de vous inviter à réagir à leurs propos, Lise et moi avons convenu de mettre la table sur cette thématique délibérément piégée que nous avons choisie pour ce coup d'envoi, le malaise. Quel malaise, m'ont demandé certains, certaines, feignant de ne pas comprendre ce qui nous interpelle, ce qui nous incommode en tant qu'écrivains, en tant qu'artistes et penseurs. Le malaise de l'intellectuel québécois, il va sans dire, en cette époque, qui voit toute forme de pensée noyée, sans scrupule, dans ce magma que Pierre Milhaud avait baptisé l'incessant bavardage public. Ce que nous avons appelé le malaise de l'intellectuel québécois semble être cette cristallisé autour de ce silence réel ou prétendu qu'on lui reproche parfois vertement. Pour ma part, en guise de liminaire, j'aimerais esquisser le contexte général et les conséquences du supposé silence de l'intellectuel québécois. Depuis quand se serait-il tu et pour quelle raison et à quel prix? Y a-t-il un intellectuel dans la salle, demandait un jour, et non sans une bonne dose de sarcasme, Pierre-Éliott Trudeau, de triste mémoire, au moment de prononcer un discours? La formule nous est restée, notamment parce qu'André Bello l'a reprise comme titre d'un essai mémorable qui soulevait des questions auxquelles on n'a pas fini de répondre. Si l'on se fie à cet ouvrage, Bello, en effet, n'était pas loin de penser qu'il existait au Québec, en général et même chez les intellectuels d'ici, une idéologie dont le trait marquant est un anti-intellectualisme viscéral, idéologie contre laquelle il nous invitait, en tant que personne d'intelligence et de culture, à réagir. Y a-t-il un intellectuel dans la salle? Si la question porte autant à réfléchir encore aujourd'hui, si le silence qu'elle inspire m'apparaît comme l'une des manifestations de ce malaise dont nous discuterons ce soir, c'est sans doute parce qu'on ne sait plus trop, ou l'on n'ose plus affirmer ce que signifie et représente la figure de l'intellectuel. Car le terme, hélas, galvaudé jusqu'à désigner n'importe quel individu affublé de lunettes, mais si peu de véritables disciples de la tradition incarnée notamment par Émile Zola, est utilisé à tort et à travers dans le cas de n'importe quel franc-tireur médiatique, capable d'occuper de l'espace avec verve et tempérament. Et cela, c'est quand il n'est pas tout simplement réduit au statut d'insulte dans la bouche des tribuns moins articulés mais tout aussi forts en gueule de certaines radios commerciales. Réticents à prendre position dans les débats sociaux, bon nombre d'universitaires préfèrent se retrancher dans leur bureau, invoquant la scientificité de leurs recherches comme alibi pour ne pas aller débattre sur la place publique de sujets sur lesquels ils étudient pourtant. Dans un article publié récemment dans le journal Impact Campus de l'Université Laval à Québec, Christiane Vadnet affirmait que ses collègues et elle se faisaient régulièrement refuser des entrevues par des professeurs sous prétexte qu'ils ne connaissaient pas assez bien telle ou telle question qui gravite pourtant autour de leurs intérêts de recherche. Je cite « À croire que s'ils n'ont pas fait un post-doc sur un sujet, ils n'en connaissent pas assez pour informer le public », écrit-elle, « ou pour défendre un point de vue. Quel risque ! Quel risque en effet ! Mais cette frilosité de nos intellectuels, parmi lesquels j'inclus les écrivains, peu importe le genre littéraire qu'ils pratiquent, cette réticence à la prise de parole ne s'explique-t-elle pas par la violence de la réaction suscitée par la prise de parole de certains collègues dans l'ère publique? Pour en avoir une idée, on n'a qu'à se souvenir de la lapidation médiatique de Gérald Bouchard et Charles Taylor, orchestrée par les ténors des tribunes démagogiques, quand ces deux écrivains et chercheurs universitaires pilotaient les travaux de la commission qui portait leur nom. Que l'on ait été d'accord ou non sur la légitimité de cette commission ou sur les points de vue de ses animateurs importe finalement assez peu. Les attaques dont ils ont fait l'objet dans les journaux, à la télévision et à la radio et même à l'Assemblée nationale me semblent très symptomatiques de ce discours à double tranchant qui a inondé l'agora ces dernières années. Discours journalistique qui, en reprenant une logique populaire, consiste à condamner d'une part le supposé mutisme des penseurs québécois, tout en condamnant d'emblée leurs paroles comme inaptes et déconnectées de la réalité du vrai monde. Comment expliquer ce paradoxe? Alors que certains journalistes, nommément ceux d'entre eux qui se sont vus élevés au rang de phare de la pensée branchée et pertinente par un establishment médiatique satisfait de lui-même, revendiquent le droit de proférer des énormités quitte à se contredire constamment d'une chronique d'humeur à l'autre, on exige de l'intellectuel qu'il exprime des pensées toujours nuancées, critiques mais pas trop, sévères mais modérément, toujours respectueuses du vrai monde, quitte à s'enferrer dans le carcan de la rectitude politique. Pourtant, peut-on se demander quel est le rôle de l'intellectuel et selon quelle balise peut-il tenir ce rôle? À l'intellectuel, on demande de formuler un discours rationnel sur un monde qui ne l'est pas forcément, qui ne l'est pas toujours. De l'intellectuel, on attend qu'il soit apte à établir des rapprochements, à esquisser des pistes de réflexion sur la base desquelles il serait envisageable d'ordonner le chaos du monde. Et à l'intellectuel, il faut reconnaître le droit à l'erreur, lui qui avance dans le noir comme le commun des mortels, à peine mieux armé que le commun des mortels contre les ténèbres ambiantes. Pourquoi rappeler les limites de la parole intellectuelle au moment de la justifier? Pourquoi faut-il absolument s'arrêter à la définition de la figure de l'intellectuel telle qu'elle s'est incarnée, par exemple, en un Jean-Paul Sartre ou un Bernard-Henri Lévy au XXe siècle? Et doit-on rougir du fait que Sartre, pas plus que Bernard-Henri Lévy, n'a pas toujours eu raison, n'a pas à avoir toujours raison? Qui réfuterait aujourd'hui l'importance qu'il a exercée, qu'il continue d'exercer dans l'histoire des idées? Si cette petite noirceur enfantée par la grande, si cet anti-intellectualisme que Bello puis Jean Larose, chacun à sa manière, s'est escrimé à circonscrire, ne date pas d'hier, il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'un des nœuds du problème de la prise de parole, pour l'intellectuel québécois, réside non seulement dans cette dépréciation de sa parole qui se manifeste depuis le début du 21e siècle par la disparition progressive des tribunes où faire entendre cette parole. En ce sens, le démantèlement de la chaîne culturelle de Radio-Canada en 2004, nonobstant les critiques parfois légitimes que l'on pouvait formuler sur sa programmation, passera à l'histoire comme l'un des moments décisifs de ce bâillonnement graduel de ces voix tour à tour réclamées et honnies. La difficulté de trouver des lieux de contact avec la société civile, hors des tours universitaires, si rarement comparables au proverbial tour d'ivoire, m'apparaît comme la cause essentielle de ce malaise dont nous discutons ce soir. Il manque aux intellectuels québécois, dont nous sommes, des zones d'interface avec une société civile qui saurait se montrer réceptive si on lui en donnait l'occasion, le lieu et l'heure. Une société civile avec laquelle il est possible d'engager un dialogue fécond et essentiel pour la suite du monde. Sur la place publique avec les nôtres, c'est là où désirait être le regretté Gaston Miron, et je ne doute pas que c'est là où il souhaiterait nous voir, nous tenir à notre tour. Aujourd'hui, sur la place publique qui murmure, j'entends la bête tourner dans nos pas, j'entends surgir dans le grand inconscient résineux les tourbillons des abattis de nos colères. À cette seule condition serons-nous accédés, à nouveau, puisqu'il le faut encore, à ce qu'un autre poète appelait l'âge de la parole. Merci. Lise, on va faire un cours, la parole est à vous.
Tu disais, Stanley, que c'était un hasard hasardeux, je ne sais trop, qui nous avait fait nous rencontrer. En tout cas, un hasard bien organisé.
Oui.
Nous nous disions justement à cette rencontre cet été au mois d'août, on a voulu surtout rapprocher les deux organismes, que les auteurs dramatiques et les gens de la littérature se rencontrent. Et puis, en parlant justement de, en témoignant, en parlant, en se donnant des nouvelles de nos membres respectifs, pas nos mains ni nos bras, mais bien tous les gens qui sont associés à nos organismes, je disais à Stanley, on a eu 22 auteurs qui sont venus juste avant le Congrès québécois du théâtre pour dire leur désarroi devant cette situation totalement contradictoire, à savoir un succès incroyable de la dramaturgie québécoise sur la scène nationale et internationale, et le hiatus qui existe entre ce succès et la quasi-absence de l'auteur sur la place publique. Et suite à ça, bon, on a parlé largement de la diminution des tribunes publiques qui est destinée à la culture et à la littérature. Mais maintenant que les mois ont passé, la question finalement devient, est-ce que l'auteur est absent sur la place publique parce qu'il y a une diminution en nombre des tribunes publiques ou est-ce parce qu'on se tait? Sur un tout autre ton que celui de Stanley, et c'est pour ça que c'est intéressant les échanges comme ça, je suis allée de façon un peu plus personnelle pour me poser la question à moi-même. Et voilà un peu ce que ça a donné. Je ne sais pas trop ce que j'ai trouvé. Mais voilà ce que j'ai écrit. J'ai pris la plume en 1982 pour prendre la parole. Je commence mon métier dans un haut lieu de l'affirmation artistique et politique, le théâtre expérimental des femmes. La parole féministe et le discours nationaliste de l'époque ont marqué le théâtre des années 70. Il faut entendre un collage de textes de cette décennie-là pour s'en rendre compte, comme j'en ai eu l'occasion l'automne dernier. On ne fait pas dans la dentelle, le ton est haut, les cris de rage nombreux et les sacres aussi courants que les revendications des femmes. Ce pays m'appartient ou ce corps m'appartient se clame à la même hauteur et sur le même ton avec vindication. On sent que le silence a assez duré, que le théâtre est un art magnifique pour se reprendre. Comme femme, j'ai appris à me taire. Ce n'est pas parce qu'on a un lieu de prise de parole que la parole surgit soudainement. Ça prend de la pratique, beaucoup de pratique. De l'âge de 20 ans à 27 ans, une vieille croyance va naître en même temps que le désir d'écrire. Je fais un rêve. Je rêve que je dois absolument prendre la parole et au moment où je me présente sur la tribune, je suis tuée par une balle tirée de la foule. Quand je commence à pratiquer mon métier, je fais un autre rêve. J'ai 8 ans, je suis une petite indienne, c'est la nuit, on m'amène au cœur de la forêt pour une initiation. 3 hommes à perruque poudrée me demandent de tirer la langue. Dessus, ils y appliquent une pastille en forme de chien. Si je remets ma langue dans ma bouche, le chien va déféquer et faire un étron empoisonné qui me tuera. Si je la laisse pendre, le chien ne déféquera pas. Pendant que je suis dans cet état, on rit de ma langue bien pendue. Écrire, c'est parler et parler, c'est clair, contient un enjeu de vie et de mort. Je ne viens pas d'une lignée d'écrivains ou d'intellectuels. Petite, j'ai connu une grande intimité avec la misère et la peine des miens. Cette intimité avec la misère a créé des couches de silence, le leur. Parler, c'était mettre mes deux pieds sur ce terreau de silence et risquer de révéler des origines honteuses. Mom, raconte-moi ton histoire. Pourquoi tu veux savoir ça? Il n'y a rien d'intéressant. Pourquoi on se tait? Je pense qu'on se tait. Ce n'est pas une conviction, c'est un sentiment. Je pense que l'auteur dramatique se tait. Pourquoi je me tais? Qu'est-ce qu'on dit quand on se tait? On dit comme les autres. On dit comme tout le monde. On dit rien. J'ai commencé à écrire parce que c'était la seule façon de parler. C'est très primaire. L'écriture s'est développée comme un langage sur le territoire de la fiction, un territoire aussi vaste que le monde lui-même, une cartographie de l'inusité. Je voulais parcourir le vaste monde, explorer, faire des découvertes. J'écris. Je vais à la rencontre de cet inconnu qui est moi-même. Ce territoire sera celui où je me promènerai. J'écris avec la pensée que je me recrée, que je me transforme. Je me tiens du côté des ténèbres et de l'ombre, du côté des transformations. Mais comment on occupe la place publique quand on se promène sur un territoire de la fiction à longueur de journée? Mon amie Penneau avait don de la parole publique. Elle écrivait pour coucher sur papier la parole proférée. Je suis dans l'exact mouvement contraire. J'écris pour clarifier ce monde qui m'entoure. Quand je n'écris pas, le monde devient rapidement flou. J'écris et ça le clarifie, ça le remet au focus. Même l'insensé finit par avoir un sens puisqu'il me mène à dire non. Il faut que j'écrive pour arriver à dire non à l'insensé. Hélène voyait clair et disait tout de suite non. Je dois écrire pour voir ce que je refuse. Sans écrit, je ne prends pas la parole. Tout effort de réflexion se fait par l'écrit. Impossible de réfléchir en me promenant. Quand je me promène, j'imagine que je vole, que les arbres autour de moi se déracinent et battent de leurs branches et lévitent et s'élèvent vers le ciel. Quand je marche, j'imagine parfois que je cours. J'en ai déjà fait l'expérience. Et quand je m'arrête de marcher, je suis aussi essoufflée que si j'avais couru. C'est dire que ce que j'imagine a plus de réalité que la réalité elle-même. Quand j'imagine, je pratique la joie. Qu'est-ce que manifester? C'est pratiquer la responsabilité. Quand on refuse, on dit non. Titre Amadou Kourouma. Quand on manifeste, en fait, on donne suite. Entre l'écrit et la manifestation, il existe toutes les occasions, toutes les tribunes, comme celle de ce soir, pour prendre la parole. Je pense que prendre la parole, c'est créer une tribune publique. La parole, traditionnellement, est à prendre. Qu'est-ce qu'on dit quand on se tait? On consent à ce qui nous nie. On est presque sur le bord de contester ce que l'on pense. En se taisant, on dément avant même que de l'exprimer. Cette idée qui, pour être claire, aurait bien eu besoin d'être exprimée pour s'incarner. Se taire, c'est s'opposer à soi-même, c'est nager dans de vieilles blessures. Ta gueule, tu parleras quand on te le dira. Se taire, c'est empêcher l'action. Car, on le sait au théâtre, les mots ont des conséquences inévitables sur l'action qui s'ensuivra. Les mots sont action. Ne pas parler, c'est ne pas passer à l'action. C'est quand j'ai vu Ferron, Jacques Ferron, à la fondation du Parti Rhinocéros, que j'ai eu le goût de la parole et du théâtre. C'était un soir du discours. Il a sorti une feuille de sa poche avant de son veston, l'a dépliée. C'était le soir du discours pour la fondation du Parti Rhinocéros. J'étais toute petite. Il a sorti une feuille de sa poche avant de son veston. Il l'a dépliée. Il l'a regardée. Il a soupiré. Il l'a repliée. Et il l'a remis dans sa poche devant trois caméras qui attendaient qu'il parle. Et il a répété ce mouvement et ce geste durant 20 minutes en variant ses soupirs. Ce discours a été pour moi mémorable. C'est ce soir-là que j'ai décidé que je ferais du théâtre comme ça. Ferron, pour moi, faisait de la performance. Pour moi, c'était le comble du ludisme, du triomphe de la résistance. Pour la jeune de 13 ans que j'étais, ça a été ça, le théâtre.
Merci, Guys. Ben, je pense que la table est mise et puisque je suis l'hôte, je te laisse l'honneur de présenter la première de nos invités.
Et donc, si tu dis la première, alors nous présentons Carole en premier.
Oui.
Mais Carole me disait...
Ben non, en troisième. Okay, okay. En troisième, puisqu'on a parlé.
Alors, donc, Carole Fréchette, auteure dramatique. Je ne ferai pas toute la liste pour chaque auteur pour les présenter. Disons tout de suite que la petite pièce en haut de l'escalier a été présentée l'an dernier au TNM. Carole est l'auteur de plusieurs pièces qui ont été jouées ici et qui sont jouées très souvent à l'étranger. Elle est récipiendaire de plusieurs prix. Son œuvre est très prisée, autant ici qu'à l'étranger. Alors voilà, je lui donne la parole et je la remercie d'avance, comme je remercie Larry, comme je remercie Robert, d'être venu nous rejoindre à cette table. Alors Carole, à toi la parole.
Ah oui, absolument.
Quand on a dit la troisième, tu t'es fait piéger. C'était la première, pareil, pour toi.
Ce que je voudrais faire aussi, c'est quand même, on a écrit des textes pour faire... pour mettre la table. Mais nous n'avons pas demandé un exercice aussi formel aux participants. Alors, donc, Carole, Larry et Robert étaient là pour venir prendre un verre avec nous et livrer soit une communication réflexion. De leur cru ou une réflexion. Alors, voilà.
OK. Alors, donc, ça s'appelle le malaise, hein, ce soir. Ça s'appelle le malaise. Et si je me fie au communiqué, le malaise, l'objet du malaise, oui.
Je vais te demander pas. De parler proche du micro pour que les gens entendent et aussi parce qu'on enregistre. Okay. J'ai peut-être oublié de spécifier que ce sera éventuellement rediffusé sur les ondes de Radio Spirale.
Alors, là, ça va?
Oui.
si je me fie à ce qui est écrit sur le communiqué qui annonçait cette soirée, le malaise, l'objet du malaise est lié. On veut parler de la quasi-absence des auteurs dans l'espace public et la disparition des tribunes médiatiques consacrées à la littérature et à la culture. C'est comme ça autour de ces deux phénomènes, qu'on définit le malaise. Alors, au début, je me suis arrêtée sur les mots, les quatre mots, absence, disparition, tribune, espace public. Donc, absence, j'ai regardé un dictionnaire. Absence, le fait de n'être pas dans un lieu où l'on pourrait, où l'on devrait être. Hein? Quand même, c'est bien. Ensuite, disparition, le fait de n'être plus visible. Donc, impliquant qu'on a déjà été visible. Tribune, lieu d'où l'on s'exprime. Et public, pour espace public, public qui concerne le peuple pris dans son ensemble, qui appartient à la collectivité sociale et politique. On est donc ici pour parler du fait que nous, auteurs, ne sommes pas, ou quasiment pas, parce qu'il y avait le mot « quasi » quelque part, dans un lieu où nous pourrions ou devrions être. Dans un lieu où nous aurions déjà été, mais ne sommes plus. Ce lieu est ce lieu d'où l'on s'exprime. Et un lieu qui concerne le peuple et qui appartient à la collectivité. Alors, je me suis d'abord demandé, quand on dit absence ou quasi-absence de l'auteur dans l'espace public, est-ce qu'on veut dire l'espace public ne parle pas assez de nous, auteurs, de nos œuvres, de nos univers, de nos démarches, etc., ou nous, auteurs, ne prenons pas assez la parole dans l'espace public pour parler des affaires de la cité? Nous, dont le métier consiste à créer du sens à travers des fictions, nous sommes absents de l'espace public quand il s'agit de faire sens de notre monde. Alors, comme les deux questions m'intéressaient, j'ai un peu exploré les deux. Alors, si la première hypothèse est la bonne, si on est ici pour dire que l'espace public ne parle pas assez de nous, auteurs, il y a bien sûr un danger de que cette soirée devienne une longue litanie de doléances sur les médias qui nous font passer de place. Bon, une litanie de reproches venant de nous, artistes, écrivains, gens de culture, et adressés à eux, gens qui contrôlent l'espace public, entendez par là, gens qui contrôlent les médias. Stanley a dit tout à l'heure, c'est piégé parce que tout de suite, on se retrouve dans la position de demander, d'exiger plus d'attention, dans la position inconfortable de celui qui dit « mais intéressez-vous à nous ». Je me dis, au lieu d'aligner les doléances, il peut être intéressant de se demander, mais pourquoi? Pourquoi l'espace public ne s'intéresse pas à nous davantage? Est-ce que c'est parce que les lecteurs de journaux, les spectateurs de télé, les auditeurs de radio lisent moins de romans qu'avant, ils vont moins au théâtre et donc que le sujet ne les intéresse plus? Apparemment, non. C'est pas ce que les statistiques nous disent. Alors, est-ce que ça serait parce que parler d'écriture implique une certaine attention et une certaine durée, et que cette durée ne correspond plus à la capacité d'attention, à la capacité d'écoute des auditeurs, des lecteurs de journaux et des téléspectateurs? Donc, dans cette hypothèse, on serait des lents dans un monde de rapidité et d'instantanéité. Les gens veulent des clips, des brèves, des entrefilets, ce qui convient pas bien à discourir sur la littérature. On peut pas nier que notre rapport au temps a changé. Il y a juste à regarder les journaux il y a 100 ans pour voir la longueur des articles, comment le rapport article-image, mot-image a changé. Il y a juste à regarder les émissions de télé d'il y a 40 ans pour voir comment on s'étendait davantage sur les sujets que maintenant. Nos esprits, notre œil s'est habitué au découpage, à la vitesse, à l'instantané. Et tous, nous sommes tous à nos heures des cliqueurs frénétiques et des zappeurs. Nous faisons tous partie de ce changement. Mais pourtant, on lit pas un roman plus vite qu'avant. Il faut le lire une page après l'autre. Ça, ça n'a pas changé. Et les gens continuent de lire des romans. Donc, mais il faudrait parler des livres de façon syncopée, de façon très, très rapide, alors que le temps de lire, lui, n'a pas changé. Une autre raison pour laquelle peut-être l'espace public ne s'intéresse pas à nous, c'est parce que nous, auteurs, contrairement aux acteurs, aux chanteurs, aux autres performeurs du monde culturel, nous sommes cachés derrière nos mots et que nous n'exposons pas notre personne. Or, tout ce qui intéresse l'espace public en ce moment, c'est justement la personne, sa vie, ses secrets, ses confidences. Pourquoi? Parce que la personne, c'est la grande valeur et peut-être la seule valeur de notre monde actuel. La personne, l'individu, son apparence, son épanouissement, son accomplissement, la réussite de sa vie, ses succès, ses échecs, ses difficultés, la personne. Alors,
coming out de la personne.
C'est ça. Et comme nous, bon, notre métier, c'est d'être caché derrière nos mots, on ne s'intéresse pas nécessairement à nos personnes. Alors, en admettant qu'il y a là des éléments de réponse à la question « Pourquoi on ne parle pas davantage de nous? », on peut se demander « Qu'est-ce qu'on peut faire? » comment résister, je dirais? La première question que je me suis posée, je me demande, peut-être qu'il faut se poser la question, pourquoi voulons-nous que l'espace public parle davantage de nous? Ça a l'air d'une question bête comme ça, mais il me semble qu'il faut la poser. La première réponse évidente est parce qu'on a besoin de ce relais pour rejoindre notre public, pour donner envie à nos lecteurs d'acheter nos livres, à nos spectateurs de venir voir nos pièces. C'est la fonction promotionnelle évidente. On a besoin de ce relais pour aller jusqu'aux gens. Et dans ce sens-là, je pense que c'est une réponse qui est toujours là, qui est valable. Mais il me semble qu'il y a une autre réponse à ça. Pourquoi on veut que l'espace public s'intéresse davantage à nous? Espace public, entendons, médias, pour le moment. Et je dirais que qui est une raison, je trouve, plus troublante et plus grave, qui est que vivant dans l'empire des médias, on peut avoir l'impression de ne pas exister si les médias ne nous mettent pas sous les projecteurs. Mais est-ce bien vrai? Pour moi, une façon de résister, c'est d'essayer de ne pas me soumettre à cet empire-là. Ne pas laisser les médias me définir et définir mon importance et mon existence en fonction de l'espace qu'ils m'accordent sur leurs ondes ou dans leurs papiers. C'est pas facile de faire cette remise en question. Comme tout le monde, j'ai mes crises de temps en temps. Je peux penser que l'espace public de ma société ne fait pas attention à moi, pas assez attention à moi. Par exemple, je peux penser, il m'arrive des choses, mes pièces sont jouées, mais personne ne le sait parce que c'est pas écrit dans les médias. Mais la vraie question, c'est mes pièces sont-elles moins jouées parce que c'est pas écrit dans les médias? Mon travail a-t-il moins de sens parce qu'il n'est pas assez sous les projecteurs? Il me semble que c'est une question qui vaut la peine d'être posée. Je ne suis pas si zen que ça, et je comprends bien sûr l'importance que l'on parle de nous dans l'espace public. Et je pense qu'il faut continuer comme collectivité d'auteurs à nous battre pour qu'on fasse à la littérature la place qui lui revient. Mais il me semble que d'un point de vue personnel, c'est important de résister à cet empire-là et de ne pas laisser cet empire-là définir ce que je suis. Autre façon de résister, je me dis, c'est peut-être en créant un mouvement slow, comme le slow food. Alors, je propose le slow talk ou le slow show. Parce que pour moi, il y a une question de durée, justement, de prendre le temps de prendre la parole autrement. Ce qu'on fait ce soir, ça sera ou ça ne sera pas relayé par les médias, ça n'empêchera pas que ça existe. Raconter nos œuvres, notre démarche à des gens qui ont envie d'écouter, parler aux gens directement, imposer notre temps, et s'il ne convient pas aux médias, eh bien recréer ce temps sur d'autres tribunes. Voilà, ça c'était pour pourquoi l'espace public ne parle pas assez de nous. Mais si le sens de la question était plutôt pourquoi nous, auteurs, ne prenons pas davantage la parole dans l'espace public pour parler des choses de la cité, alors là c'est une autre affaire. C'est une question qui m'intéresse beaucoup, une question que je me pose à moi directement assez souvent. Pourquoi moi, dont le métier est de créer du sens à travers des fictions, Pourquoi je ne parle pas davantage quand il s'agit, dans le réel, de faire sens de notre monde? Pourquoi je ne participe pas ou pas assez aux débats de société? Quand j'avais 20 ans, j'avais toujours la main levée en classe pour prendre la parole, pour discuter, argumenter. Je me projetais dans cette image de l'avenir, où je me projetais cette image de moi dans l'avenir comme quelqu'un qui lève la main pour parler haut et fort. Je brûlais de participer aux débats de notre monde. Il faut dire que j'ai eu 20 ans à une époque où la politique était partout, dans les salles de classe, dans nos associations d'artistes, dans nos parties, dans nos chambres à coucher. À une époque où faire du théâtre voulait dire forcément prendre position socialement, politiquement. Une époque où, dans la fleur de l'âge et sans réelle expérience du monde et de la vie, nous savions, ou nous pensions que nous savions, nous affirmions, nous proclamions nos convictions dans des manifestes enflammés. À une époque où l'espace public était synonyme de rassemblement de vraies personnes dans des vraies salles. Occuper l'espace public voulait dire lever la main dans des assemblées, des réunions, des fêtes populaires, aller au micro, affronter la foule, oser. À cette époque, je participais donc aux débats de société, mais je ne parlais pas en mon nom unique. Les idées que je défendais n'étaient pas mes idées, c'était nos idées. Mon « je » se fondait dans un grand « nous », nous les jeunes, nous les femmes, nous les Québécois. Nous prenions la parole, nous levions la main, le bras, le poing, etc. Et puis les choses ont changé. Nous, nous sommes frappés aux limites de nos utopies, de nos théories. Et comme beaucoup d'autres de ma génération, j'ai eu envie de dire « je ». J'ai voulu une démarche artistique fondée sur l'intuition et la plongée dans les profondeurs de l'être, ce que j'ai fait. Mes textes ne participaient plus directement aux débats de société. Mais je continuais pas moins à être citoyenne. Les affaires du monde n'en continuaient pas moins de me concerner. Pourtant, sur ce plan, je me suis tue. Je n'ai plus levé la main pour prendre la parole. Je ne suis plus allée au micro. Pourquoi? Je dirais première raison parce qu'il n'y avait plus de micro. L'espace public s'est déplacé avec les années. Il s'est déplacé des assemblées vers la télé d'abord. Il y a eu les années Claire Lamarche. 30 personnes font le débat en studio, 30 000 personnes le regardent à la télévision. Ces personnes peuvent être réunies en petits groupes chez elles. Après, le débat s'est déplacé de la télé vers l'Internet. 10 000 blogs, 10 000 forums de discussion, participation de milliers de personnes évaluées en nombre de CPM, de clics par minute. Ces milliers de personnes sont seules devant leur ordinateur. Peut-être parce que je suis une femme de théâtre, d'abord, pour moi, l'assemblée convenait à mon goût de la convivialité. Il y a quelque chose de théâtral dans la prise de parole publique, la présence réelle, l'oralité, l'improvisation, le mélange de rationalité et d'émotion, l'immédiateté de la réaction. Aujourd'hui, être dans l'espace public signifie écrire dans les journaux ou alimenter un blog, participer à un forum de discussion sur Internet. Dans les deux cas, c'est un geste solitaire, au départ en tout cas. Si je me suis tue, c'est aussi parce que je sentais plus d'appartenance à un « nous » qui pouvait me conforter dans mes opinions, me donner le courage peut-être de lever la main. S'il m'arrive d'avoir envie de participer à un débat en écrivant, par exemple, un texte dans les journaux, je me pose tout de suite deux questions. D'où je parle? À quel titre je veux prendre la parole? Comme je fais un métier public, je ne suis pas une vedette, mais quand même mon nom est associé à une activité publique, je ne peux pas rester dans l'anonymat d'une simple lettre de lecteur. Ce n'est pas en tant que citoyenne que je parlerai, mais en tant qu'auteur, en tant que personne qui travaille avec les mots et qui, à ce titre, devrait pouvoir nommer mieux que d'autres les problèmes de notre monde. Mais est-ce bien vrai? Est-ce que mon talent d'auteur me rend plus apte à parler des problèmes de notre monde? Je n'en suis pas si sûre. En tout cas, il reste que si je ne refuse jamais une invitation à une tribune comme celle d'aujourd'hui, il est vrai que je ne lance pas des débats. peut-être parce que je me sens seule, ce qui m'amène à la deuxième question que je me pose toujours, d'où je parle et deuxièmement, à qui je parle. On peut dire, je parle à ma société, à mes contemporains, mais c'est bien vague et c'est bien abstrait. Il me semble que pour lancer des débats, il faut se sentir appartenir à une communauté d'interlocuteurs, une communauté dans laquelle circule la parole. Je n'ai pas cette impression d'appartenir à une communauté d'interlocuteurs. Alors, j'ai peur peut-être que mes paroles tombent dans le vide ou qu'en l'absence de cette communauté, toute parole devient simple expression d'un ego, façon d'attirer l'attention, à la limite un acte de vanité. Ensuite, danger pour le... si je me suis dit, c'est peut-être aussi parce que j'ai senti un certain danger, le danger pour le « je », disons, à partir du moment où on n'a pas l'impression d'appartenir à une communauté où la parole circule et qu'il n'y a que le « je » qui s'exprime, moi, mes idées, mes opinions, on se sent tout à coup très exposé. Et dans notre petite société consensuelle, on peut avoir peur de se couper et d'être mis au banc. À titre d'exemple, je dirais que à une certaine époque, à la fin du Théâtre des Cuisines et au moment où je commençais à écrire plus en solo, j'ai fait partie des cahiers de théâtre du jeu, donc qui était un lieu de pensée, de réflexion, et que à l'intérieur de ce comité, j'ai brassé beaucoup d'idées, j'ai pris des positions sur des spectacles, mais aussi sur des courants de pensée qui circulaient dans le théâtre, et que plus j'avançais dans ma démarche d'écriture et plus je devenais un écrivain. Et plus je sentais qu'il fallait que j'arrête ça, que c'était très difficile dans notre petit monde et dans notre petite communauté d'appartenir à la fois à la création et à la réflexion, que c'était pas trop bien vu, disons. Donc, je dirais, ça vient de la petite communauté. Enfin, je me demandais, bon, on dit les auteurs, si je me suis tue, si les auteurs prennent pas beaucoup de place dans l'espace public, on peut se demander qui prend de la place dans l'espace public, qui parle aujourd'hui. Stanley disait tout à l'heure des journalistes chroniqueurs qui sont un peu les penseurs d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des débats? Est-ce qu'il y a vraiment des débats en ce moment? L'impression qu'on est entre le peu, le trop peu et le trop plein, c'est-à-dire qu'il y a peu de débats dans l'espace public, disons physique, dans des réunions, dans des salles, etc., et même à la limite dans les journaux, il y en a peu, mais que sur Internet, là, il y a un océan d'opinions qui sont émises, mais qu'on n'a pas l'impression que c'est un débat de société qui se passe là. En conclusion, je voudrais dire que j'ai pas la nostalgie de mes 20 ans. En tout cas, pas, certaines choses, certainement, j'ai une certaine nostalgie, mais pas de cette époque-là, pas de la réalité. C'était une époque qui comportait ses difficultés aussi, qui n'était pas plus facile et pas plus agréable de vivre sous l'empire des idéologies qu'il est facile de vivre sous l'empire de l'individu. Mais le monde change et il faut en prendre acte. Si on revient aux questions de départ, pourquoi l'espace public n'est pas davantage... ne fait pas plus de place aux auteurs ou pourquoi les auteurs ne prennent pas davantage part au débat public. Moi, je trouve, j'ai pas du tout envie de me tourner avec nostalgie vers le passé. Je voudrais pas retrouver telles quelles les conditions qui existaient à cette époque-là, mais il y a peut-être des choses, des éléments de ce passé que j'ai envie de recréer. Et pour moi, ça passe par la rencontre réelle. Moi, je crois énormément que les débats publics, on devient pas comme ça, intellectuel qui prend la place sur la place publique si on n'a pas autour de soi des petits groupes où on peut exercer cette pensée, si on n'a pas l'impression d'appartenir à une communauté de penseurs, une communauté d'idées. Et donc, dans ce sens-là, je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup à contourner aussi, contourner l'empire des médias et se retrouver et justement retrouver le plaisir d'échanger et peut-être que de là va naître l'envie de prendre la parole de façon plus large. Voilà.
Merci, Carole Fréchette. Le prochain qui va prendre la parole pour poursuivre dans cette thématique, C'est Robert Lalonde, que vous connaissez bien sûr comme comédien, mais qui est d'abord et avant tout ce grand écrivain qui a été couronné dès le premier livre, qui a reçu le Robert Clich en 82, La Belle Épouvante. Robert Lalonde a publié Un cœur rouge dans la glace chez Boréal cet hiver. Et il y a une formule de Carole Fréchette qui s'applique tout à fait à Robert Lalonde, faire sens de notre monde. C'est ce qu'il me semble que je sais lire dans des livres de creative non-fiction comme Le Monde sur le flanc de la truite, mesurer notre rapport au monde. C'est ce qu'on apprécie chez lui, Robert Lalonde.
Il est classé souvent en librairie dans la section chasse et pêche. Ça, c'est de mèche avec le débat. La largeur du propos que nous entreprenons, messieurs, dames, est considérable. J'apprécie énormément ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Ça m'a fait rebondir, et j'imagine vous autres aussi. C'est pour dire que ça ne sera pas faisable de rendre compte de tout ça dans une rencontre, je ne crois pas.
C'est bien, on va en faire d'autres.
C'est ça que j'essayais de suggérer. Il y avait l'an passé, je vais procéder par petits exemples comme ça, dans une émission bien connue le matin à Radio-Canada, une animatrice qui recevait Marek Alter, le grand écrivain, et qui, visiblement ne sachant pas quoi lui dire, soit qu'elle est impressionnée par lui, soit qu'elle ne l'a pas lu, c'est probablement la deuxième version de ce que je dis là qui est plus exacte, elle lui dit « Comment est-on devenu Marek? Comment devient-on Marek Alter? » Il y a un grand silence. Et là, on entend la voix caverneuse de Marek Alter. Un matin que je me rendais à l'école, ma mère m'accompagnait pour aller prendre le bus scolaire. Et j'avais eu un chien la veille et j'aimais beaucoup ce chien. Je voulais jouer avec ce chien. Je voulais pas monter dans le bus. Maman disait, mais monte, Marek, tous les camarades attendent dans l'autobus. Non, maman, je veux rester avec le chien. Mais monte, Marek, il dit, ils vont pas t'attendre toute la journée. Dit, non, maman. Et au moment où on parlait de cette discussion, l'autobus a explosé. Mes 40 camarades sont morts. C'est tout ce qu'il a dit. Ah oui, oui, mais on compte. Mais oh, ça s'est agité l'autre côté du micro. Mais j'étais dans ma voiture et je me suis dit, Monsieur Marek Alter n'a pas répondu à la question, tant mieux. Mais il a dit quelque chose. Le lendemain, il est à une autre émission. Je ne sais pas laquelle, je ne me souviens plus, je suis encore dans mon char. Un matin, j'ai voulu prendre le... Mais il a raconté exactement la même chose. Je me dis donc, je procède par petite capsule moi-même, puisque c'est la capsule. Il faut, si on prend la parole dans les maudits médias, qu'on sache ce qu'on va leur dire, quoi que ce soit qu'on nous demande. Ça, je n'ai pas réussi à vivre ça autrement. Et je pense qu'on ne prend pas la parole très souvent dans ces endroits-là. Il y a bien des raisons, mais une des raisons pour moi, c'est qu'on n'affirme pas quelque chose quand on va là, on répond à des questions. On nous demande de jouer le jeu. Je suis en tournée de promotion en ce moment. Si vous allez venir parler de votre livre, si vous acceptez de parler de l'allaitement maternel dont il sera question un peu avant vous, bon, etc. Moi, je réponds des choses comme je n'ai ni enfant, ni nourrisson, ni téton. Je ne vois pas en quoi mon opinion. Et là, l'animateur me dit « Voilà, encore un artiste qui n'a pas d'opinion ». Vous voyez dans quel débat nous sommes. Je n'ai pas d'opinion parce que sur mon livre, on ne m'interrogera pas et c'est là-dessus que j'aimerais bien qu'on lance le débat. Et je n'ai pas d'opinion pour eux parce que sur le sujet stupide dont ils parlaient, je n'ose pas me prononcer par respect pour les auditeurs qui n'ont pas à entendre la bêtise que je pourrais évoquer sur ça. Parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise sur un sujet pareil? Donc il y a bien sûr une terrible crainte, je parle, là c'est seulement l'aspect média, dans ma capsule média que je suis, de participer à ce qu'on appelle jouer le jeu médiatique, parce que c'est comme ça que c'est formulé par les personnes elles-mêmes qui nous demandent d'en faire partie. On ne jouerait pas le jeu, selon eux. Donc on est d'un terrible snobisme et d'une terrible non-participation, parce que comment est-ce que ça peut me déranger que on en parle du lait maternel en même temps que moi? Ils ne voient pas en quoi je suis autre chose que snob et intellectuel inconvertissable de ne pas vouloir mêler tout ça avec la littérature. Ils me trouvent extraordinairement capricieux, compliqué, et il y a fossé énorme entre les créateurs en ce moment et les gens des médias à cause de ça. L'autre affaire, qui est une autre capsule pour moi, c'est la maudite affaire qu'on travaille avec les mots pour faire sens, etc. Bon, je suis d'accord, et bien entendu, que c'est ça notre travail. Mais notre travail est beaucoup plus de travailler contre les mots qu'avec. Parce qu'on est dans une période de fabrication de discours convenus, pour lequel, si on prend la parole, on va tout de suite être obligé de défaire ce discours-là, parce qu'autrement, on ne pourra pas en affirmer un, quel qu'il soit. Donc, la façon dont les questions sont libellées ou dont les gens s'adressent à nous, je parle toujours de l'espace public, nous oblige à être impopulaires automatiquement à partir du moment où la question est posée ou où le débat est lancé. Il y a un vertige très grand à traverser comme artiste ou comme intellectuel quand on est dans un espace public comme ça, parce que ce qu'il faudrait dire, ce serait quelque chose sur lequel il y aurait une adhésion un peu de tout le monde, sur lequel on s'entend bien, qu'il y a une sorte de convergence du sens, alors qu'on a quelquefois, comme artiste, à dire quelque chose d'extrêmement contre tout ça. Moi, comme écrivain, je ne me débat pas avec les mots que je connais pourtant assez bien. Je ne travaille pas avec les mots, je travaille contre. La première version de mes textes sont toujours des choses terriblement convenues par rapport à ce qu'il faudrait que je finisse par dire et qui vont me demander plus de courage et plus d'insistance. Et devant l'animateur ou le débatteur, je vais sécher parce que ce que je finis par écrire n'est pas même ce que je voulais faire. L'artiste ou l'intellectuel ou l'écrivain ne lance pas des formules qu'il a infiniment réfléchies et sur lesquelles il est définitif et sans recours. Une part d'instinct et d'inconscient est très forte dans notre création qu'on ne peut pas défendre avec les termes qui nous sont proposés pour le défendre. Je suis incapable, moi, de répondre à ce qu'on pense de mon travail quand je m'aperçois que j'ai voulu parler... Dans mon dernier recueil, par exemple, de l'impossibilité d'arriver là où on veut aller, donc accepter la déviance dans notre parcours, etc. Quand je me mets à parler de ça dans les soi-disant publics, on me demande des anecdotes, puis si j'étais délinquant quand j'étais petit, puis je me dis, bon, c'est toujours la même truc. On se laisse prendre dans ce jeu-là parce qu'on se dit, mon Dieu... Le brave peuple que représente cette dame devant moi a droit de savoir par où je suis passé pour arriver à écrire cette chose-là. Mais je ne comprends pas moi-même beaucoup ce que j'écris. C'est tout à fait légitime. Un artiste ne peut pas... C'est pour ça qu'on compte tellement des fois sur l'espace public pour nous mettre en rapport, justement, notre travail avec celui des autres, ce qu'on appelle la critique et qui ne se pratique plus. Pas dans ce sens-là, en tout cas. Ce qui fait qu'on est tout seul. Il n'y a pas l'espace public avec un réel interlocuteur ou des interlocuteurs qui nous font pas peur. Pas peur parce qu'on a peur de parler, mais peur parce qu'on a peur de s'égarer complètement et de ne pas être en train de faire la vraie chose. Il n'y a donc pas ce débat-là. Et comme nous sommes masqués, et les artistes en général, moi quand j'ai commencé à faire du théâtre au collège, j'ai fait du théâtre parce que j'étais continuellement renvoyé des collèges où j'étais. Et que quand on m'a demandé de faire du théâtre, je me suis rendu compte qu'en prenant le texte de quelqu'un d'autre, au lieu d'avoir un renvoi, j'avais des félicitations, etc., j'étais à l'abri des représailles. C'est Molière ou c'est Camus ou c'est quelqu'un d'autre qui disait ça. Je disais la même chose le mois auparavant, mais j'ai été renvoyé parce que j'ai dit ça, puis j'étais individuellement pris à partie. Je me suis rendu compte qu'en participant à la grande aventure théâtrale, elle a d'abord été pour moi une façon de dire les choses en me mettant à l'abri des représailles, en n'étant pas la personne qui devait défendre cette opinion que... La liberté est enivrante et que, bon, je disais des phrases absolument magnifiques d'auteurs que j'épousais totalement, qui parlaient à ma place, mais c'était cet auteur qu'on blâmait, c'était pas moi. Donc, l'idée de cheminer masqué dans notre société est absolument essentielle à l'artiste, d'une certaine façon. On peut pas être continuellement en exposition de soi-même puis de tout ce qu'on vit dans le regard public. C'est insupportable, pas parce qu'on serait lâche puis qu'on manquerait de courage, mais parce qu'on ne sait pas nous-mêmes, comme disait Gabriel Leroy, la moitié de ce qu'on est. Et donc, on n'est pas obligé. C'est Flaubert qui disait, la grande auteur n'a pas à être une personne cohérente. C'est une absurdité complète. Or, on a une condamnation en ce moment à la cohérence dans notre système d'espace public. La personne, on l'a dit quelquefois ce soir aussi, est blâmée si elle a dit quelque chose qui est digne de... On parlait de notre chère amie Hélène qui carburait à l'indignation énormément. S'indigner, c'est avoir un écart de comportement. On n'est pas loin, moi, de me suggérer très fortement de consulter quand je parle. C'est nommé comme ça. On vient me voir après avec une table sur l'épaule en disant « Tu files un mauvais coton, tu devrais... » On veut me confier à un spécialiste pour que je calme mon propre malaise. Et je crois que le problème, il est là. Le dossier noir de la psychiatrie qui est sorti récemment en librairie, je vous invite à consulter ça, qui fait la preuve de l'échec des thérapies sur le plan global, soutient comme hypothèse, et j'épouse ça totalement, qu'une personne qui a quelque chose à dire à quelqu'un va plutôt que lui dire, aller se faire calmer par quelqu'un, d'avoir envie de dire ça à cette personne-là. Donc les colères sont rentrées, les indignations sont rentrées, on n'a pas envie de faire notre intéressant, on est dans une époque de positionnement. Donc quand l'artiste ou l'intellectuel parle, il ne défend pas une idée, il essaye de se positionner sur l'échec public. On est tous des vedettes qui montent. La célébrité a remplacé le mérite ou la valeur, donc c'est bien évident qu'on va essayer de nous faire jouer ce jeu-là. Et donc, de la même façon qu'on va dans les voir des psys, je ne veux pas blâmer la psychologie pour autant, mais quelquefois pour calmer des malaises qu'on devrait faire vivre à d'autres, hein, qui en méritent, des claques qui s'en perdent, puis des coups de pied qui s'en perdent en masse, cette malaise-là, on va aller le soigner parce qu'on n'est pas bien avec ça. Donc on est aussi victime de ça comme artiste. On dit « je ne vais pas aller monter sur la barricade » pour aller engueuler cette société qui ne va non seulement pas écouter ce que je veux dire, mais qui va encore penser qu'en plus, c'est le truc que j'ai trouvé pour me rendre célèbre, d'aller brasser la cale. Alors, ça devient, c'est très compliqué. Je sens ça à chaque fois que je suis dans un endroit de débat ou dans un truc de radio. Vous êtes bien calme, m'a-t-on dit cette semaine à la télévision dans une entrevue. Je n'étais pas calme, j'étais totalement apathique et découragé. Et je dis, c'est pas moi qui suis calme, c'est vous qui êtes hystérique. C'est de l'hystérie complète. Il y a aussi... on parlait, c'est ça la vanité dont tu parlais, Carole, tout à l'heure. On est accusé soit de vanité, soit de vouloir se positionner par une espèce de truc langagier qu'on a trouvé qui nous rend accrochant, alors que t'es porteur d'une idée, de quelque chose de fondamental que tu défends, mais en fait, t'as tout simplement l'air d'avoir trouvé une formule qui va te faire venir à toute la ville en parle, tout le monde en parle, c'est ça. C'est désespérant pour ça aussi. Il y a aussi, récemment, on m'a demandé, puisque je suis une figure soi-disant publique, pour faire une émission littéraire à la télévision. Bien sûr que c'était piégé, puis qu'il n'y en aura pas d'émission littéraire, puis qu'on essaye de nous faire croire qu'on va en faire une, mais il n'y en a pas. On passe toutes des grosses auditions pour ça, pour rien. J'avais 20 secondes par livre, m'a-t-on expliqué, puis j'avais une pile de livres à côté de moi. Puis les deux bras m'ont tombé, malgré que je... Le lendemain, on m'appelle, même personne de la télévision, pour me dire « On vient de se rendre compte que vous êtes écrivain, donc on ne peut pas te faire la proposition. Vous êtes en conflit d'intérêts. » Formidable. Pour parler de livre en 20 secondes, il ne faut surtout pas être écrivain, puisque je suis en conflit d'intérêts avec... Ça nous prive tellement de réactions, ce genre de truc... Que ou bien on a envie d'étriper cette personne-là ou là. Alors j'ai déclaré ça à quelqu'un qui m'interviewait. C'est ça le jeu des incestueux aussi des journaux. À quelqu'un qui m'interviewait pour la presse pour la fin de semaine. Et je raconte cette anecdote-là. Le producteur me rappelle en me disant qu'il va me traîner en libelle diffamatoire. On n'a pas envie de ça. Ce que j'essayais de dire à travers cet incident que je vous raconte est à son importance sur... le mépris qu'on a pour la littérature dans les médias. Je répondais à une proposition qui est insultante. Je répondais pas à une proposition où j'ai fait mon snob de ne pas la considérer. Mais si je réagis à ça, je suis une espèce de délinquant de service on va me poursuivre. Radio-Canada m'a téléphoné le 3 jours après pour me dire, écoutez, monsieur Lalonde, si vous comprenez, n'êtes pas plus coopératif que ça, quand il sera question de vous faire venir pour vos livres, on va hésiter. Alors, j'ai dit, bon, quand je vais marchander mon rapport d'interviewer à vos émissions en acceptant de jouer ce jeu-là. On vous invite à un débat la semaine prochaine, il y a des pour et des contre, on aimerait que vous seriez dans le contre. J'ai dit, mais est-ce que je peux réfléchir? Mais c'est pas... Ça semble... Vous voyez à quel point ça semble caricatural, ce que je raconte. C'est quotidiennement comme ça. L'autre point, en ce qui concerne le théâtre et l'écriture, c'est que malheureusement, et c'est ça qui est le grand malheur de l'espace public qui est lié à la pub dont on a besoin, les livres restent 3 semaines en librairie si quelqu'un n'en a pas dit quelque chose quelque part. Ça décolle, ça repart, puis moi je visite souvent le backroom des invendus dans ma maison d'édition. C'est assez désolant. Il n'y a pas grand chance. Vous voyez les grandes surfaces, combien les livres changent. Et allez-y au 15 jours, vous allez voir, on a balancé tout ce qui était là. Donc les attachés de presse puis les gens qui travaillent à essayer de faire parler de nos livres, même si on parle du lait maternel, nous disent « vas-y ». Faut y aller, faut que quelqu'un parle de ton bouquin quelque part, il va tomber à la trappe complètement. Donc, il y a d'une part le fait que si on y va, on va, comme ça m'est arrivé cette semaine, au moins, sinon être déplacé, au moins se couvrir de ridicule, ce que j'ai fait au moins à quelques reprises, à mon corps défendant. Ou bien on va sauter d'en face de la personne qui est là parce que ça n'a pas de sens. Ou bien on va se fermer à trappe parce qu'on est privé de réaction devant ce qui se passe, puis on n'a pas de mots. Et puis, pour en revenir au début de ce que je disais, comme notre travail n'est pas, au contraire, de se servir du langage commun, c'est de travailler contre ce langage commun-là, on utilise un langage qui passe pour être totalement incompréhensible. De quoi ce que vous avez parlé hier à la radio, M. Lalonde? J'ai rien compris. Mon livre en ce moment sort, j'entends des critiques à la télévision dire que c'est un élitisme, c'est un écrivain qui est devenu un peu snob. C'est pas moi qui ai changé ma façon d'écrire, ce sont ces gens-là qui en parlent. Qui sont un obstacle énorme entre le lecteur ou le spectateur et nous. Et là, en ce moment, il y a un abîme qui nous sépare. Depuis là, ce qu'on se fait dire, c'est que vous êtes bien paranoïaque, vous êtes bien compliqué, puis on ne peut pas vous parler, puis vous êtes rendu snob, puis vous êtes là-bas. Je dis ça parce que je suis quelqu'un qui fréquente ce monde-là à plus ou moins de bon gré, souvent. Je vois évoluer l'étroitesse d'esprit et le peu de temps accordé à ce que l'auteur veut faire. D'autre part, au théâtre, il y a ce nouveau problème. J'énonce un paquet de malaise à la suite des uns des autres, hein, mais il y a ce nouveau problème. Il est plus nouveau qu'avant. Je ne sais pas si Carole et Larry seront d'accord avec moi, mais l'auteur n'est qu'un rouage de la machine de théâtre. Avant, l'auteur était quand même une sorte de point de départ magistral. Là, c'est un rouage. On essaye de matcher un auteur avec un metteur en scène, voir ce que ça va donner dans certains cas. Et puis, bon, j'exagère à peine. Donc, l'auteur lui-même est appelé à modifier des fois pas mal son travail pour entrer dans la grille de vision des choses qu'ont le théâtre en question ou le metteur en scène qui va le monter. Ça, c'est une nouvelle réalité aussi qui fait que l'auteur est toujours aussi là, quelqu'un de plausiblement compliqué, qui ne connaissant pas assez les rouages du théâtre, ne saurait pas assez bien fabriquer sa pièce, puis qu'il faudrait quasiment l'aider à ce que sa pièce soit écrite convenablement avant de la jouer. Ça, j'ai vécu ça souvent comme acteur, j'ai joué beaucoup de créations. L'auteur est toujours potentiellement quelqu'un qui... Il y a des bonnes idées, puis il y a des bons personnages, mais il ne connaît pas assez le théâtre, puis il faut l'aider à structurer sa pièce. Ça m'embête un peu parce que je pense que quand Beckett a écrit « Oh les beaux jours », il s'est trouvé personne pour lui dire « Pourquoi t'as de sable ?» Il n'y a pas question de sable jamais dans la pièce. Je suis très persuadé qu'un auteur qui écrirait aujourd'hui « Oh les beaux jours », il faudrait qu'il réponde à la question de pourquoi est-ce que le personnage est dans un tas de sable, parce qu'il y a des chances qu'on dise « ça n'a pas de sens », qu'on fasse passer 1h30 à des gens et que ces gens-là ignorent pourquoi cette dame est plantée dans un tas de sable. Il y a, et ça, je ne blâme pas, ni le CEAD, ni les gens qui aident les auteurs, ni l'Union, ni personne en particulier là-dedans. Je blâme l'avancée considérable du discours de cohérence dans la volonté d'examiner le travail d'un artiste. Et que l'artiste aujourd'hui se sente obligé à cette cohérence-là pour apparaître dans l'espace public, c'est une horreur. Parce que si j'étais vraiment un auteur mineur, je saurais exactement tout ce que je fais, probablement. Et je dis ça avec beaucoup d'orgueil. Comme me disait Françoise Loranger, la modestie, c'est toujours faux. Mais si je m'attaque à des choses qui me dépassent, je ne peux pas comprendre mon travail complètement. Je réclame le droit de ne pas le comprendre complètement. Je donne mon manuscrit à l'éditeur, généralement à partir du moment où je suis prêt à le détruire, parce que je considère que je ne suis pas encore arrivé. La dernière fois, ils m'ont dit chez l'éditeur, on ne le trouve plus, ton manuscrit, tu ne peux plus y retoucher. C'était une façon de dire de le lâcher, j'imagine, parce que... Mais quand on est habité par ça, on n'est pas explicatif sur son travail. Même Flaubert, écrivant dans ses innombrables lettres tout ce qu'il pensait et voulait dire de Madame Bovary, y compris Madame Bovary, c'est moi, et tout ce qu'il a pu sortir, finit les 7/8 de ses lettres et dit « Mais qu'est-ce que je fous avec cette affaire-là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne vais pas retrouver mes amis à Paris puis prendre un coup? Puis pourquoi est-ce que je lance pas ce texte dans le caniveau? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Puis qui est-elle, cette folle, hystérique, adultérine qui me poursuit? » On n'a pas, quand on est un intellectuel ou un artiste, à faire autre chose que livrer ce qu'on a et ce qu'on reçoit et ce qu'on perçoit. Et on n'a pas à l'expliquer. Et aujourd'hui, qu'on ne sache pas l'expliquer avec cohérence, nous déclasse totalement dans l'espace public. Je ne sais pas comment ramener. Et Hélène Pedneau a fait sa grosse part, puis je l'ai fait de temps en temps avec elle. L'aspect non moral, non psychologiquement cohérent qui est lié à l'acte de création. J'ai travaillé toute l'année à McGill cette année avec de jeunes créateurs et j'ai passé l'année à, de façon délinquante, les supplier d'abandonner leur idée dominatrice qui était dans le chemin de leur propre travail. Ils m'envoyaient tous des textes de conclusion. Cher professeur, puis il n'y a pas de faute, puis c'est propre, puis je veux voir les brouillons. Il n'y en a pas de brouillons. C'est un sentiment d'échec épouvantable de faire un brouillon. Il faut tout de suite qu'on soit brillant. Donc, dans la pratique, il y a eu du recul aussi, dans l'idée du résultat qui doit vite aboutir. Dans l'espace public, il y a cette impression que nous allons faire nos intéressants et que nous allons nous positionner sur l'échiquier social, puisqu'apparemment tout le monde fait ça. Donc apparaître à la télévision, c'est soigner sa légende. Il n'y a pas d'autre chose. En quoi est-ce que l'artiste et l'intellectuel réellement impliqués dans une œuvre pourraient être intéressés à faire ça dans les conditions actuelles? Je ne vois pas comment. Donc, blâmer le silence de certains intellectuels artistes dans l'espace public en ce moment, je serais le dernier à faire ça, parce que je comprends fort bien que ça ne les intéresse pas. Je comprends très bien que des gens se présentent, même à des débats comme ce soir, diraient « j'y vais pas », parce que ce que ça va encore faire, c'est... Puis en plus, on a une telle horreur du conflit dans notre société, de plus en plus, hein? Il y a... Cette banderole, je vais finir avec ça, devant le magasin de meubles à Grimbay, où je passe tous les jours, Roche-Beaubois, il y a une grande banderole qui part d'en haut du magasin, puis il va jusqu'à terre, et où c'est écrit « La passion du confort ». Mon char s'arrête tout seul devant ça, ça me fascine. Je comprends l'idée, là, hein? Mais c'est le mal du siècle, pour moi, la passion du confort. Cette notion que s'il n'y a pas de confort dans les échanges, que s'il y a conflit possible, que s'il y a affirmation contradictoire, c'est comme si on avait la schizophrénie plus la paranoïa, plus la feuille pour aller voir un spécialiste. C'est terrible pour ça. Il fut des époques où les écrivains et les artistes n'avaient pas la condamnation à cette cohérence et où on comptait plutôt sur eux pour brasser la cage et même être excessif au point peut-être de rétablir nos propres excès dans la vie courante. Là, c'est pas ça. Bon, je réponds pas en disant tout l'espoir que j'ai dans cette société pour que l'espace public et l'artiste soient en harmonie, mais je pense que tant qu'on fera pas un peu comme Marek Alter, c'est-à-dire de répondre ce qu'on a à dire, quelle que soit la question qu'on nous pose, et deux, que je me suis fâché contre quelqu'un de l'espace public, justement, dans un restaurant, il y a quelques semaines. Quelqu'un qui m'avait fait une saloperie, puis qui est venu m'embrasser en disant « Oh, mon Dieu, il est fâché! Ouloulouloulou! Il est... Le feu au cul m'a pogné. Je fais « Veux-tu aller t'asseoir puis manger à ton... » Quand tu parleras comme du monde, puis que tu sauras ce que c'est le travail que je fais, on pourra avoir une conversation, mais pour l'instant, je mange ici, tu vas manger plus loin. Je veux dire, en plus, tu vas pas me poursuivre à la table. Il y avait des gens à la même table que moi qui étaient... Le restaurant se serait arrêté. J'aurais été violent dans l'espace public. Mais je ne l'ai pas attaqué, je ne l'ai pas frappé, j'ai même pas parlé plus fort que ça. Ça se fait comme pas. Les gens m'ont dit, au travers, ça se fait plus, des comportements comme ça. On fait. Donc, on n'a pas envie d'avoir les regards familiaux et amicaux à qui on a gâché le souper pendant 3 jours, nous regarder comme si on était potentiellement une bombe qui va leur exploser dans face, parce qu'on a osé rêver notre clou à quelqu'un qui le méritait pas, à peu près, enfin, selon moi. Et personne m'a évidemment dit, personne ne m'a jamais parlé comme ça. Mais je dis, mais il y en aura eu, hein? Il y aura moi qui t'aura au moins dit ça. Je suis vraiment pas tout seul à le penser. Mais moi, je te le dis. Et il y a cette nouvelle notion qu'encore une fois, il faut calmer nos propres malaises. Le soir même, en question où j'ai fait cet esclandre-là, on m'a quasiment dit que je serais mieux de me coucher, puis de prendre la tisane.
La prescription s'en venait.
L'artiste et intellectuel dans notre société qui est condamné à la cohérence et à l'équanimité, c'est absurde. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte?
Merci Robert.
Excusez-moi. Voilà.
Merci beaucoup. Alors Lise, à toi, reviens. La parole pour présenter Larry.
Ben oui, alors Larry Tremblay, dont peut-être vous avez vu Abraham Lincoln va au théâtre l'an dernier, qui a été créé par les productions PAP, dans une mise en scène de Claude Poisson. Larry qui est, et je lis, et c'est valable pour tous ici, on a tous des romans en même temps que nos pièces de théâtre. Tu as publié Pursing aussi chez Gallimard l'an dernier ou il y a 2 ans?
2 ans. Un merveilleux mangeur de bicyclette aussi.
Oui, absolument. Ouais. Alors, Larry qui est donc auteur d'innombrables, d'une vingtaine de textes, et à qui j'ai demandé justement, un peu comme à Carole, de se présenter avec une structure d'idées.
Oui, j'ai finalement écrit un texte. Parce que je me suis dit, c'est une question complexe, mm-hmm. Et ça m'a plongé dans un certain malaise. Et rien de mieux que d'écrire pour dissiper un peu son malaise. Il y en a pas mal. Suite à Robert, je vois que le malaise s'épaissit.
Tu parles de dernier.
Oui. Moi, ce qui me fascine et en même temps m'attriste, c'est la bêtise. J'en vois partout, j'en entends partout, et je me dis, est-ce que je suis seul à penser que la bêtise est en train de nous envahir et de transformer l'espace public en espace de bêtise? Enfin, peut-être que j'exagère, mais c'est ce que je ressens d'une façon viscérale. C'est sûr que aller dans passer une émission, on se sent déjà en train de se clownifier soi-même. Il faut faire un show, un spectacle, et ce dont je m'aperçois, c'est qu'on ne parle plus des œuvres, on ne s'intéresse plus aux œuvres, mais on s'intéresse à ceux qui les créent. Donc, il y a un déplacement de l'œuvre vers l'auteur. Et donc, la pensée diminue au profit de l'augmentation du vécu. Je pense que ça recoupe un peu ce que Robert Carole disait. Donc, les œuvres ne sont plus autonomes. Elles sont des produits dérivés de l'écrivain. Et ça m'embête. Et je ne pense pas que je serais capable de passer à la télévision, personnellement. Pas dans l'état actuel des médias. Si jamais, Robert, tu as une émission sur les livres, je te fais confiance.
20 secondes. 20 secondes par livre.
En 20 secondes, Larry Tremblay, dites-moi.
C'est vrai qu'il y a un phénomène de capsularisation, de clonification, d'infantilisation, de clipisation, enfin, si on peut en inventer des mots. Il n'y a plus de place pour la pensée. Alors, le petit texte que j'ai écrit, je suis... très déformé par le fait que j'écris des pièces et de la fiction. J'ai écrit une lettre à Hamlet. Ça m'aide, moi, de penser que j'écris à quelqu'un, et surtout quand il est mort et qu'il est connu de beaucoup de gens. Alors, j'écris « Lettre à Hamlet » et ça recoupe un petit peu ma pensée d'une façon peut-être un petit peu plus pamphlétaire que si je l'avais écrit d'une façon plus directe. Alors, je vais vous la lire.
« Lettre à Hamlet ».«
Lettre à Hamlet ».« Lettre à Hamlet ».« Hamlet ». Tout m'agresse. Sarkozy m'agresse. Son image de papier glacé m'épouvante. Le fait d'écrire cette phrase m'agresse. Stephen Harper, avec son mépris des artistes, m'agresse. Écrire mal m'agresse. Ne pas trouver tout de suite les mots. Leur place dans la phrase m'est une insulte, une gifle à mes prétentions. Ne pas saisir le germe de ma pensée me torture. La pensée, celle qui nous appartient en propre, n'y a-t-il rien de plus difficile à attraper ? Quand peut-on être certain de penser ce qu'on pense? Il y a tant d'ordures dans nos têtes molles, ouvertes comme des hangars. Ça m'agresse de ne pas pouvoir me tordre comme un linge sale pour en faire sortir la merde absorbée pendant une heure passée devant la télé. Ça m'agresse de n'avoir jamais pris le temps d'écrire une lettre aux journaux pour exprimer une opinion, un simple soupir, pour s'opposer à quelque chose, pour placer un grain de sable entre les rouages de notre routine noyée dans l'information. Tiens. Parlant d'information, j'ai vu récemment un reportage sur le Danemark. Ça devrait t'intéresser. Il paraît que le Danemark, Hamlet, est le pays le plus heureux du monde. Pourquoi le Danemark? Réponse. Les Danois, apprend-on, ont peu d'attentes. Les Danois, apprend-on, se contentent de peu. Voilà donc la recette du bonheur. Couper court à l'horizon, garrotter le désir. Toucher le bonheur, finalement, c'est se contenter. Hamlet, tu dois refaire tes classes. Avoir ou ne pas avoir, voilà la question. Cher prince du Danemark, inscris-toi à l'école de l'humour, ou encore mieux, puisque tu es jeune et beau, inscris-toi à la Star Academy. Le théâtre qui ne tient pas à tout prix à faire rire est suspect. Il vaut mieux de nos jours être un petit imitateur qu'un grand acteur. Entends-tu, Hamlet, le bruit de notre époque? C'est le bruit du talk show, le bruit du rire accouplé à celui du profit, le bruit de la mise en marché de l'ego, le mariage des codes d'écoute et du rire banalise l'écrivain, clownifie l'artiste, infantilise l'intellectuel, transforme n'importe qui en produit de marketing. Résultat, la disparition de la pensée. Must the talk show go on? Qui pense de nos jours? Qui s'accorde quelques minutes dans une journée pour réellement le faire? Hamlet. Que s'est-il passé pour que penser cet acte foudroyant demande à présent un effort colossal? Je sais, la pensée est souvent égarée, confuse, tourmentée, hésitante, insatisfaite. Pourquoi s'égarer dans une forêt de suppositions? Pourquoi se piéger dans les contorsions du possible? Pourquoi perdre son temps dans cette suspension du monde qu'exige la pensée? Se laisser aller, c'est tellement plus agréable. Rares sont ceux qui résistent encore à ce bonheur d'accueillir en leur cœur la bêtise. Comme toi, je me plains au lieu d'agir. Quel est donc ce malaise qui m'alourdit, me freine, me vide de mon sang et de ma volonté? Il y a quelque chose, Hamlet, de pourri dans le royaume de notre espace public. Je sonne faux dans cette chorale des médias où règne le bavardage, le verbiage, la bêtise, où la pensée est rejetée aussitôt qu'elle tente de s'y inviter. La pensée n'intéresse plus. On a de micros et de caméras que pour le vécu. Oui, Hamlet, le vécu. Chacun d'entre nous en possède un, en secrète un, à chaque seconde de son existence. Il coule de chacun de nous comme une source inépuisable. Mais jamais dans l'histoire de l'humanité, le vécu a été élevé au point de le confondre avec l'intelligence, la raison, la réflexion, la sagesse, la connaissance. Le vécu, parce que né d'une conscience, embluée dans le sang de son propriétaire, est aussitôt porté au nu, entouré d'honneur, de précaution. Quiconque donne son vécu à l'appétit vorace des médias devient une personnalité avec tous les appendices modernes que cela apporte. Richesse, considération, pouvoir de prédiction, pouvoir tout court, séduction, magnétisme. Mais le pire, c'est l'intelligence que le vécu d'une personne produirait sans même que celle-ci en prenne conscience. Comme si penser se confondait avec le simple fait de vivre. Cette obsession du vécu sonne la mort de l'art véritable et de toute méditation profonde. Le vécu, quand il se veut noble, se transmet principalement sous forme d'opinion. Pour faire apparaître la vérité sur une épineuse question, un problème brûlant de l'actualité, Il suffit d'approcher une personnalité de notre époque, je veux dire ici n'importe qui, en autant qu'il soit médiatisé, et de lui demander ce qu'elle pense. Quel miracle étonnant ! La pensée, comme si elle n'attendait que ce moment, s'éjecte aussitôt. Comment résister à cette omniprésence de l'opinion, du commentaire creux qu'on extirpe à quiconque, puisque quiconque peut maintenant afficher son vécu et l'utiliser comme seule preuve de sa perspicacité ? Ça prend du courage pour penser le monde, pour l'écrire, mais nous le perdons, ce courage. Bientôt, nous ne soupçonnerons même plus son existence et nous serons peut-être heureux, bêtement. Hamlet, prince du oui et du non, je suis contaminé. Comme l'acteur qui remercie God en recevant son Oscar. Comme le kamikaze qui se fait exploser au milieu d'une foule en hurlant le nom de son dieu. Même rétrécissement, même confusion. Remercier God, tuer, cela finit fatalement par se ressembler. Si la bêtise prolifère avec tant d'humour, d'amour, de consensus et d'argent, c'est qu'elle doit bien camoufler notre sentiment d'impuissance. Comment supporter le fait que des millions de gens meurent de faim alors que nous sommes en mesure de nourrir toute la planète ? La bêtise, elle est d'un grand secours et le divertissement, bien sûr. Nous serions constamment accablés si notre esprit n'était pas diverti. Aussi, nous demandons aux artistes de le faire, aux producteurs de financer à coups de millions des moments de bonheur arrachés à la monotonie de notre vie. Nous préférons de même percevoir le livre comme un simple produit dérivé de l'écrivain. Et ce dernier a de meilleures chances d'obtenir l'estime de lui-même s'il se jette corps et âme dans la rédaction de recettes de cuisine. La confection de petits plats nécessite de plus en plus de mots. Te ferais-je sourire, Hamlet, en te disant qu'on ne cuisine plus de nos jours en silence, mais dans le fatras d'une littérature toute vouée au choix des aliments, à la façon de les couper, de les agencer entre eux ? Ah, nous sommes tous coupables. Nous avons vendu notre âme ou ce qui nous sert d'âme, peu importe le nom qu'on utilise pour nommer ce machin qui dépasse du corps, qui parfois le narre ou l'enivre au point où, certains soirs, la solitude se supporte avec plaisir et devient une amie qui jette de la lumière dans nos ténèbres quotidiennes. Et pourtant, tout m'agresse, surtout les émissions de télémarketing, où Dieu se réincarne sous forme de brosse à dents ou d'aspirateur. Il n'y a plus d'évangile plus efficace que ce genre d'émission. Toute notre civilisation se retrouve là, condensée. Ses valeurs, son fonctionnement, ses stratégies, son credo, la raison pourquoi on est, on meurt, on torture, on assassine, on accumule de l'argent. Le bonheur, c'est de consacrer une heure à la sanctification d'un couteau, d'une méthode d'amaigrissement, d'un gonfleur de biceps, d'une crème épilatoire. L'écrivain n'a plus qu'à vendre son livre par tranche en faisant la démonstration que sa lecture pourra aussi couper les carottes. Il faut résister, Hamlet. Osons ! Qu'est-ce que là ? Surtout pas un moyen de redoubler le réel. Il ne s'agit pas de changer de place un bibelot pour faire beau dans le salon de la pensée ou de la représentation du monde. L'art a cette ambition de ne pas se contenter de l'opinion, de la tendance. L'art est un insatisfait incurable. L'art imagine non pas une, mais d'infinies faces cachées à la lune. Il résiste à la bêtise mondialisée et acclamée. Il déploie une pensée revendicatrice, critique et perverse. Il ne supporte pas le comique de bois comme il y a une langue de bois et une pensée de bois. Il faut être vigilant, Hamlet. Ne jamais confondre littéraire et livre. Les statistiques nous trompent souvent. La littérature diminue, c'est un fait, mais pas forcément les livres, qui plus souvent qu'autrement la dissimulent, l'asphyxient et la rendent inaccessible, perdue dans le foin de la publication. Nous sommes à l'époque des trosses, des consortiums, du super, du méga, de l'hyper, de la pensée unique, du dieu unique, du livre unique, de la monnaie unique. Quand tout le monde lira le même livre, ce sera la fin de la littérature et la victoire du livre en tant que pure marchandise. Et nous n'en sommes pas loin. Le littéraire, en se best-sellerisant, se conforme aux lois qui régissent la notion de marchandise, répondant à des critères d'emballage, de goût, de diffusion, de marketing, caractéristiques qui préexistent au contenu même du livre et en fait l'écrive dans le dos de son auteur. De plus en plus, l'écrivain, l'auteur dramatique, écrit souvent sans le savoir pour la télévision. Il tente de raconter une histoire la plus digeste possible pour qu'elle soit plus vite adaptée à la télé. L'audace disparaît, la réflexion fait peur, le jugement critique devient une tare, humour facile et légèrement sophistiqué. Voilà le sucre dont il faut enrober la pensée quand la pauvre, elle persiste encore et se montre le bout du nez. Je ne suis pas désespéré. Contaminé, oui, parce que penser devient de plus en plus difficile, qu'il faut faire des efforts, que le monde dans lequel nous vivons ne nous demande jamais d'en faire, que tout nous amène à rire de tout, à croire que la réalité c'est ce que nous voyons à la télé, qu'un bon livre c'est celui qui se vend. Contaminé donc, mais pas désespéré. Je résiste, Hamlet, et parfois je m'amuse à le faire. Oui, il y a quelque chose de pourri dans l'espace public de notre époque. C'est le rôle de l'intellectuel et de l'artiste de nommer ce malaise, d'en trouver les causes, de refuser, de résister à l'infantilisation que les médias actuels proposent à quiconque passe dans ces studios.
Oui.
Voilà.
Merci, Larry Tremblay. On a mis la table et on a ensuite dîné. Je ne sais pas si tu veux réagir ou si on invite maintenant les gens à...
Étant donné qu'on a bien bouffé, je trouve, j'ai la panse pleine de, et P-A-N-S-E. Je passerai la parole tout de suite aux gens dans la salle, des commentaires, ou parce que je pense que ça bouille.
François Jobin.
Oui. Je vais peut-être vous faire l'effet de mauvais digestif ou d'un laxatif. Ce qui me frappe chez vous tous, c'est que vous êtes des écrivains, donc des gens qui avaient pris la parole. Et ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas la parole. Mais de quoi sont faits vos livres au juste? Qu'est-ce que vous dites dans vos livres? Larry, vous avez dit que c'était difficile de penser. Pourtant, vous venez de nous faire la preuve que vous avez quand même réussi à réfléchir. En dépit de cette société hostile. Et croyez-vous sincèrement qu'il était plus facile de penser au Québec en 1940, en 1928, ou en 1852, alors que la majorité de la population était illettrée? Je pense qu'une des conséquences à laquelle on assiste actuellement avec les masses médias, parce que c'est, vous avez parlé, messieurs, pas toi, Carole, mais messieurs, vous avez parlé de la bétification, l'infantilisation des masses médias. Ça vient peut-être avec le territoire, c'est peut-être qu'il y a plus d'acheteurs. Mais avez-vous remarqué une chose? Si je me fie simplement à ma courte existence, il y a à peu près 10 fois plus de troupes de théâtre aujourd'hui qu'il y en avait au début des années 60. Je me rappelle d'avoir été au Festival mondial lors d'Expo 67, où la grande révélation, ça avait été de voir un Claudel joué par des comédiens français. Tout le monde au Québec était sur le cul. Aujourd'hui, les comédiens français, on les aime bien, mais on va jouer chez eux aussi. Il y a un nombre, je me souviens d'avoir assisté à des vernissages dans les années 60, où le gratin de la littérature québécoise était présent. Nos 8 romanciers étaient tous là. Aujourd'hui, regardez, ça représente la collection d'un homme, un don qu'il a fait à l'UNEC. La plupart des livres, je pense qu'il y a 2 livres en moyenne par auteur. Et ça représente peut-être seulement 20 ans de littérature québécoise. C'est quand même pas rien. Il y a quand même eu une émergence. Je me demande dans quelle mesure il faut absolument occuper cet espace public. Je me demande dans quelle mesure il faut absolument qu'on nous donne une demi-heure d'antenne pour aller dire les choses. Je pense que ce qui est important, et là je suis très sensible à l'argument de Robert Fallac, quand il dit que, effectivement, ce qui est important, c'est qu'on fasse connaître nos livres et que la tribune pour la faire connaître n'est peut-être plus disponible ou moins disponible. En revanche, je dois dire que c'est vrai pour les masses médias, mais ce que j'ai dit de la littérature, ce que j'ai dit du théâtre, c'est également vrai pour les petites publications. Cette flopée de publications qui s'occupent de littérature, il y en a beaucoup plus maintenant qu'il y en avait dans les années 60, et ce sont, sauf erreur, des publications assez sérieuses, ne serait-ce que des publications d'information qui ne sont pas élitistes. Je pense par exemple au Libraire. Je pense par exemple à des revues comme Lettres québécoises, dont le tirage augmente chaque année. Je pense à des revues beaucoup plus spécialisées comme Jeux, qui intéressent une petite portion de la population. Mais Donc, j'en reviens à ma question.
Mais tu me fais penser, François, je comprends ce que tu dis. Tu me fais penser, j'étais au Salon du Livre de Trois-Rivières hier, par exemple. C'est pas une grosse surface, tout ça, j'y vais, je me commets, j'ai... 85% à peu près, et c'est pas un blâme que je fais, j'insiste parce que je crois qu'il y a un malaise, contrairement à ce que tu as l'air de laisser entendre, il y a 85% à peu près du salon qui est, tant mieux pour eux, de la littérature pour les enfants et des amuseurs liés à ça, des gens qui font des numéros sur la... Moi j'ai un entretien d'une demi-heure qui devait être d'une heure, mais on a dit il s'est trop agité, ça va être une demi-heure. Où il est question de mes livres à moi, puis de la littérature en général. C'est tombé dans un silence de catacombe. I stop the show, tu sais, pendant une demi-heure de temps. Le malaise que moi je ressens, et je suis bien d'accord avec toi, je pense que c'est pas, mais c'est, je m'aperçois en t'entendant parler qu'on a l'air de dire qu'on est censuré, puis que nos livres sont pilonnés, puis que c'est pas ça. C'est par rapport à cet espace public, si moi je réclamais, mettons, le droit d'être en entretien et de parler vraiment des sujets qui m'occupent et qui occupent aussi, j'imagine, les adultes qui sont là, etc., ça stoppe le show. Le truc est fait pour qu'on parle en ce moment des livres comme une espèce de bien culturel en circulation, que c'est formidable, qu'il y en a donc, qu'il y a donc des publications, que les enfants lisent. Donc, je comprends tout ça, c'est formidable. C'est vrai qu'il n'y avait pas de livres dans les écoles et qu'il y a, maintenant, je ne sais pas combien d'éditeurs. On est d'accord? On a juste peur que...
Tu veux dire, quand tu dis « stop le show »,
ben, je veux dire, ça les a emmerdés considérablement pendant une demi-heure de temps, même si les gens m'ont vu à la télévision, moi en plus des fois, puis qu'ils se disent au moins ils vont avoir un peu d'anecdote croustillante parce qu'il va parler de ça, ce que je fais pas. C'est pas la place pour ça. Même le Salon du Livre, si tu veux, qui est quand même un endroit pour les écrivains, n'est pas la place pour parler vraiment de littérature. C'est la place pour parler de la carrière d'Élie, faire fonctionner un paquet de monde qui ont des numéros liés à leurs éditions, des caricaturistes.
C'est pas le Salon de la littérature?
Oui, mais il n'y a pas de salon de littérature.
Et le malaise, pour moi...
Mais ça, c'est pas de ma faute.
Non, mais je pense pas qu'on avance dans un débat en nous comparant aux années 50 ou 40. C'est parce qu'il y a un vrai malaise, et c'est pas en sortant des chiffres, en disant il y a plus d'éditeurs ou des choses comme ça, qu'on va faire disparaître le malaise. Il existe. Moi ce que je suis sensible, c'est le fait que... On n'arrive pas à articuler une... C'est très difficile pour moi d'écrire ce texte parce que, justement, je suis contaminé, moi aussi. Et donc, je deviens bête. Donc, c'est un effort.
Vous avez des scènes pour vous exprimer.
Oui.
Vous avez des comédiens, vous avez des porte-paroles.
Ben justement, j'ai pensé le dire, mais je ne l'ai pas dit. Mais je me suis dit, pendant des années... Moi, j'ai la chance de former des acteurs. Je suis professeur de jeu. Je travaille dans le public depuis longtemps. Et j'ai la chance, donc, de... Mais je me dis, ce n'est pas suffisant parce que mes pièces vont interroger certaines problématiques, etc. Mais je me dis que je pense que de plus en plus, on doit intervenir dans les débats publics parce qu'on devient... trop consensuel et qui c'est, je sais pas qui a dit qui se tait, c'est toi qui se tait finalement c'est quoi sur le
consent.
À ce qu'on le nie. Mm-hmm. J'ai l'impression que on se tait et on n'ose pas dire les choses ou on les enrobe d'un tel discours gentil humoristique qu'on n'entend pas les choses réellement.
Mais ce que tu as l'air de laisser entendre, c'est que le fait de publier des livres et qu'on nous permette de le faire, même si 85% de ces livres-là passent à la trappe et ne sont pas lus, ça serait suffisant comme progrès pour que le malaise soit...
Non, je dis pas que c'est suffisant, je dis que le malaise est peut-être moins important qu'on semble le dire.
Oh ben, pour la société dans laquelle on vit, il est moins important, ça c'est sûr. Pas pour nous.
Je pense en tout cas qu'il n'était pas simplement question ici de savoir si on parle assez de littérature ou si les écrivains ont accès à des tribunes dans le sens de faire de la promotion. Moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il me semble qu'il y a une négation de la pensée. Alors, je vais plus loin que la littérature. L'exemple que j'ai donné de Bouchard et Taylor, qui sont quand même des intellectuels respectés dans leur milieu, on les nomme à une commission, puis là, tu ouvres les journaux, puis t'as des chroniqueur d'humeur qui les insulte tous les jours. Et parce que Bouchard a osé dire, ben, je pense qu'il faudra qu'on élève le débat au-dessus de ce qui se passe dans le journal de Québec ou ce qui se dit à la télévision. Et là, on le traite d'élitiste. Alors que oui,
comme Desjardins fait un film sur la condition amérindienne, c'est totalement occulté. Personne ne s'en occupe. Les journalistes réagissent.
Je pense que c'est plus... moi, c'est pas la dimension du marché qui m'intéressait, moi.
Mais avec ça, je pense que c'est difficile d'être en complet désaccord. Je pense qu'effectivement, il y a un malaise, comme le titre de la soirée le dit, mais en même temps, je me demande dans quelle mesure...
On s'attend pas à trop.
La bêtise que vous dénonciez, l'arrêt... Elle n'a pas toujours été là. Mm-hmm. Sauf qu'elle s'exprimait peut-être moins, parce qu'aujourd'hui, on a les masses médias. Autrefois, les gens ne sachant pas lire, ils étaient aussi cons que l'on l'est aujourd'hui. Sauf qu'on le savait moins. La littérature se passait...
Attends, on le savait moins.
Finir ma phrase, Robert. La littérature se passait dans un cercle relativement restreint de gens assez fortunés pour avoir appris à lire et à écrire.
Mais je suis d'accord, enfin, sensible à ça, parce que du temps de Flaubert, je sais qu'il a écrit Bouvard et Pichet, donc il sait qu'il parlait de la bêtise. Mais d'autant plus que si la bêtise est amplifiée par les masses médias, mais il faut quand même que les intellectuels, les penseurs puissent aussi réagir en proportion. Donc, il faut rester vigilant. Parce que moi, je trouve qu'on pense moins. Personnellement, je pense moins qu'avant. Et parce que toute la société nous demande de ne pas le faire. C'est ça.
Oh.
C'est pas gentil.
Carole, je te donne la ligue d'improvisation.
je vais te passer la parole, mais d'abord il y a une dame qui voulait intervenir.
Moi je suis j'apprends beaucoup de choses ce soir parce que je le ressens, l'absence dans les médias du discours de la pensée, l'absence de présentation des œuvres. Et ça me manque énormément. J'essaie de compenser en lisant.
Ça vous manque comme lectrice, oui, de cet écho-là?
Oui, ça me manque. Ça me manque. Moi, de savoir, de connaître la vie de l'auteur, je veux dire personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est prendre contact avec son œuvre. Et puis, c'est sûr que je me pose des questions pendant que je lis, des questions un peu terre à terre, mais j'essaie d'aller au-delà de ça et de me dire, tiens, voilà ce qu'il pense, voilà où il veut m'amener, où il veut être m'amener, mais où il veut aller. Et puis, je suis obligée de faire ce travail-là par moi-même parce que c'est pas facilité par les médias. Bon, et d'une part, et d'autre part...
Mais avez-vous l'impression, en faisant ce travail-là, par vous-même...
Le micro, Robert, s'il te plaît.
Même dans votre cercle de connaissances, d'amis, de gens qui vous en parlent, il n'y a pas non plus l'espace pour ça?
Non, je ne peux pas échanger ça. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de prendre des notes, d'écrire aussi pour clarifier ma pensée, clarifier ce que je perçois de ce que je lis, pour que ça prenne corps un peu, cet échange-là que j'ai avec un auteur. Mais ça me désole. Ça me désole de vous voir pessimiste, mais en même temps, je comprends, je te vois très pessimiste. Et puis, c'est
par optimisme.
Nullement reproche, c'est naturel, c'est normal. Alors, vous avez ouvert une porte tantôt en disant, est-ce que finalement, la solution, ce ne serait pas de contourner les médias et de se construire une tribune ou un lieu où là, les œuvres seraient présentées, où le travail de l'écrivain serait valorisé. C'est pas le bon mot, mais le travail de l'écrivain serait présenté où on aurait un meilleur contact avec les autres. Et à ce niveau-là, les écrivains pourraient peut-être...
Ben, je pense que quand on organise avec nos collègues des tables rondes semblables, c'est un peu faire quelque chose.
Oui.
Merci, madame. Je vais passer la parole à Carole qui trépigne d'impatience.
Ah, moi, je trépigne de prendre la parole. C'est pour aller dans le sens de ce que vous dites, madame. C'est sûr que moi, en venant ici, je me disais, il faut pas qu'on ne fasse que déblatérer contre l'empire des médias, c'est-à-dire, on le sait, on sait ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, et moi, c'est vrai qu'en écrivant, surtout que là, je me suis rendu compte que la parole puis la pensée, c'est quelque chose qui s'entretient et qu'il faut des petits cercles de pensée, je dirais, pour que de ça émanent des prises de parole publiques. Et il me semble que, bon, évidemment, une soirée comme celle-là, elle est modeste, ça fera pas les médias demain matin, mais après, ça existe et il y a une parole qui circule. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et moi, je trouve que je souffre de ça dans ma vie d'auteur, dans ma vie de citoyenne, de me sentir assez coupée de cette circulation de la pensée. C'est-à-dire qu'on est tous seuls devant les nouvelles, on écoute les nouvelles, on discute, bien sûr, avec mon chum, on parle beaucoup, mais je trouve que de créer des foyers comme ça, des foyers où la pensée s'exerce et où on peut réfléchir et aller plus loin, et puis de ça...
Pas avoir peur de s'affronter, c'est ça que
oui, je veux dire. Oui, aussi.
Au théâtre, il se passe souvent des situations comme ça, par exemple. Il y a des débats avec les spectateurs après les pièces, ça arrive souvent. Depuis quelques années, j'interviens plus dans ce débat-là, même si c'est pas toujours à moi qu'on pose la question. De toute façon, j'interviens souvent quand c'est pas à moi. Comme... Mais les gens disent souvent, par exemple, à la fin d'une pièce, j'entendais ça de plus en plus, les spectateurs, j'ai pas compris. Je me suis senti lâché par ça. J'ai pas compris. Des fois, sérieusement, je me disais, avant que je pose la question à ces personnes-là, je me disais, ça se peut pas. Cette personne ne peut pas avoir compris, ne pas avoir compris la pièce. Alors, je me suis décidé à pousser plus loin. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous n'avez pas compris? Racontez-moi la pièce. Non, la personne, dans son discours, me raconte. J'ai dit, mais c'est ça? Oui, mais elle dit, c'est dur. Je dis, ça, c'est une autre affaire, par exemple. Si vous pensez, comment en êtes-vous arrivé à penser que le théâtre peut être une affaire qui va vous aider à mieux vivre la fin de la veillée? C'est un agora où on se rend compte, enfin, il n'y a plus beaucoup d'espace, en parlant d'espace public, c'en est un, où pendant 1h30, 2h, les gens acceptent à partager un problème, pas à trouver des solutions. On n'est pas là pour vous dire quoi faire. On va pas vous envoyer consulter ceci ou cela. Hamlet, ça fait longtemps qu'on le joue. Au moins, d'abord, je suis pas sûr de comprendre encore cette pièce-là complètement. Ce à quoi ça fait référence, c'est des questions. Et il y a même des spécialistes russes récemment qui ont branché des acteurs avec des électrodes pour voir ce qui se passait, pour qu'il y ait du monde au théâtre. Comment ça se fait? Probablement parce qu'il y a moins de monde aux réunions politiques que dans les salles de théâtre, dans ici, je sais pas quoi. Là, ils ont découvert... Mais on sait tout ça quand on est un artiste, que l'acteur et l'auteur d'une pièce ne donnent pas d'énergie et ne donnent pas au public, il lui enlève un poids de tension sociale, il lui enlève la solitude, il lui enlève l'affreux sens de responsabilité qu'on a tous par rapport à nos affaires. Tu sors pas du théâtre avec plus, tu sors avec moins. Moins d'accablement, moins de peur, moins de solitude, moins de fou, moins de... Pour moi, c'est clair depuis que je suis pratique mon métier d'acteur que je ne donne rien au public. Il sort de là avec un peu plus slack qui était rentré parce que c'est peut-être dédramatisable si on est à plusieurs avis. C'est cet espace public-là que l'artiste réclame, que le théâtre parfois et souvent donne. C'est cette absence de rapport-là dans le rapport public qui est le vrai malaise. C'est pas tellement, c'est vrai, l'histoire des médias et tout ça. C'est comment on stoppe le show à chaque fois qu'on nomme justement un malaise. Comment on va nous envoyer consulter parce qu'on est quelqu'un qui a de la misère avec ceci, avec cela? Comment, même dans les rapports individuels, autour d'un dîner ou hier où j'étais, les gens ont envoyé quelqu'un en thérapie là, pour arrêter la conversation? Il y a des spécialistes pour s'occuper de ça. Comment, dans une société comme ça, où l'artiste, lui, ne peut plus interpeller son concitoyen?
parce qu'il le dérange, puis qu'il a payé 30 piastres, puis qu'il a le droit, lui, sa vie est déjà assez difficile, de vivre une vie plus calme, puis de penser que le théâtre va le distraire. C'est tout ce discours-là. Comme disait René Daniel Dubois, entendre les gens dans notre société en ce moment, c'est comme quand le Titanic coulait, tout le monde dansait des 7 carrés. Hein? C'est ça, l'occasion de danser des 7 carrés puis de pousser des jokes si le bateau coule. C'est ce droit de l'intellectuel de nommer des malaises dans notre société qu'on refuse. Comme hier, je me suis senti pas médiatiquement écarté du débat au Salon du Livre, mais que je gênais le party de Le Livre. C'est formidable, tous ces jeunes qui lisent, puis ils rêvent, puis on faut donc rêver. Mais c'est pas ça, la littérature, excuse-moi. Pas beaucoup ça, en tout cas. Ces livres-là sont pas rien que pleins de rêves, puis de. Mais ce discours qu'on tient, les professeurs qui m'ont fait venir en fin d'année l'année passée, professeurs de français, pour comment faire lire les élèves, puis c'était effrayant, c'était fait les entendre, les doléances, il y en avait. Ben, moi, je leur ai dit interdisez-leur.
Je vais prendre la réaction de madame qui voulait intervenir.
J'entendais M. Jobin dire les gens autrefois ne lisaient pas. J'ai eu l'occasion de voir des documents de la Fondation pour l'alphabétisation dernièrement. Il y a au Québec, il y aurait au Québec, selon les statistiques, 800 000 analphabètes.
Bon, une personne sur 10.
D'un côté. De l'autre, la question que j'avais, c'est la télé ressemble-t-elle à ce public? La télé, dernièrement, il y a les médias ont parlé des difficultés vécues par financières, vécues par les télévisions. Je pense qu'il y a toute une compétitivité qui va avec ce souci de médiocrité de plus en plus grande, et que la pensée par essence est subversive, la pensée ne va pas avec cette télé-là. Alors, je pense qu'il ne faut pas aller à la télé.
Donc, ce qu'on est en train de se dire, c'est que l'espace public où on veut, qu'il existe, il doit se bâtir en marge complètement de ça.
Ben, c'était ma conclusion il y a quelques années.
Je pense que le combat des écrivains ne peut pas faire l'économie d'un combat pour l'alphabétisation de la population. Oui. Voilà.
Mmh. Merci. Dire le combat des écrivains, le combat des livres.
Non.
Ça aussi, c'est une aberration, selon
c'est
moi.
C'est pour ça qu'on fait des doléances en ce moment. Moi, on m'a dit, si tu veux participer au combat des livres, on va te faire venir à l'émission pour parler de tes livres. Donc, on est en train de me faire marchander. Enfin, je vais arrêter avec mes doléances. Mais si tu t'indignes contre ça, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui revendique une façon de faire considérer ton travail. Tu as l'air d'un snob, de quelqu'un qui veut pas jouer le jeu, de quelqu'un qui se fout de lui, qui méprise les gens des médias, etc. Le fossé est énorme. Alors, je suis moi-même en train de dire, je sais pas si je fréquente pas le net puis le web, je sais pas s'il y a là un espace public réel, parce que comme Carole, je suis quelqu'un qui aime le genre de débat comme on a maintenant, j'ai du mal à le vivre virtuellement, ce truc-là. Mais ma fille, puis mais des gens plus jeunes, enfin, qui fonctionnent comme ça, m'assurent qu'eux, ils sont là tout le temps. Ils sont pas à télé. Puis à la radio. De moins en moins.
Me ferais-je le porte-parole d'une idéologie anti-pensée si je disais quelque chose comme « c'est tout le temps que nous avons » et que... Non, je blague, évidemment. J'allais vous inviter à ce qu'on continue à débattre avec un verre de vin à la main et qu'on laisse tomber les micros. Est-ce que vous aimez ça comme idée?
Oui. Surtout qu'on a juste 4 micros.
Et
ça
ne se dira pas, et voici maintenant un mot de notre commentaire.
Je dis, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Je voudrais vous remercier en tout cas d'être là, puis j'aimerais vous inviter à suivre davantage ce qui va continuer à se faire par l'UNEC, par le Centre d'essai des auteurs dramatiques. Et j'aimerais surtout remercier nos 3 écrivains invités, Robert Lalonde, Carole Fréchette et Larry Tremblay. Lise, je crois que si on fait de l'auto-congratulation, nous avons eu une bonne idée.
Je crois que nous avons eu une bonne idée. Et comme je disais, moi, je vais reprendre une de mes phrases. Je pense vraiment que prendre la parole, c'est créer des tribunes publiques. Mm-hmm. Alors voilà. Je vous remercie infiniment.
Comment?